You're with SBS Radio.
Et tout d'abord, les grands titres de ce mardi. Le mari et père de deux Australiens tués dans les attentats au Sri Lanka parle de son chagrin. La police fédérale australienne aide les autorités sri-lankaises dans leurs enquêtes des attentats de dimanche de Pâques. La campagne des élections fédérales en Australie et le United Australia Party de Clive Palmer pourraient décider qui sera élu dans quatre circonscriptions clés du pays. Le gouvernement du Sri Lanka blâme le groupe extrémiste National Tawhid Jamaat d'avoir organisé les attentats de dimanche dernier contre les églises et les hôtels de luxe. Les autorités pensent que le groupe avait un soutien international. 290 personnes ont trouvé la mort et plus de 500 personnes ont été blessées. 24 personnes ont été arrêtées. L'état d'urgence est en vigueur et ce mardi, c'est jour de deuil au Sri Lanka. Carlotta Morteo pour Radio France Internationale revient sur ce que la police sri-lankaise savait avant les attentats.
Le ministre de la Défense, Emaziri Fernando, a fini par l'avouer à demi-mot ce matin. Oui, des alertes quant à de possibles attaques sur des églises étaient parvenues aux oreilles de la police il y a une dizaine de jours. Mais il s'agissait, selon lui, d'informations trop vagues pour permettre d'anticiper quoi que ce soit. Puis, c'est le Premier ministre Ranil Wickremesinghe qui a, lui, admis une faille des services de sécurité. L'information aurait dû remonter jusqu'à son cabinet, ça n'a pas été fait. À la sortie d'une réunion, le ministre des Télécommunications, Arin Fernando, a carrément publié sur Twitter des documents internes datés du début du mois sur lesquels on peut lire qu'un groupe de militants islamistes se préparait pour des missions suicides. Selon le chef de la police nationale, ces informations seraient tombées à la veille des grandes vacances de la moisson au Sri Lanka et de conclure qu'elles ont peut-être été négligées par des agents trop pressés de partir. Depuis la crise politique majeure d'automne dernier, le président et le premier ministre sont en très mauvais termes, ce qui pourrait bien avoir divisé les services administratifs et sécuritaires selon des lignes partisanes. Cette polémique pourrait bien fragiliser davantage l'exécutif sri-lankais au risque de faire éclater la cohésion nationale dans ce pays pluriethnique et multiconfessionnel.
Carlotta Morteo pour RFI. Le mari et père de deux Australiens tués lors des attaques de dimanche dernier a parlé du moment quand il a vu les corps de sa femme et de sa fille qui assistaient à la messe à Negombo. Sudesh Kolon était en train de garer sa voiture quand il a entendu l'explosion.
I heard about a huge noise, and I jumped into the church, and I saw that my daughter and my wife was on the floor. I don't know what to do. And I was just saw my daughter on the floor, and I tried to lift her up. She's already dead.
Sudesh Kolon sur l'ABC. Deux autres Australiens ont été blessés dans ces attaques et sont dans un état stable à l'hôpital. Le Premier ministre australien Scott Morrison déclare que la police fédérale australienne assiste les autorités sri-lankaises dans leurs enquêtes. Selon Scott Morrison, qui était sur l'ABC, le Sri Lanka a accepté l'offre d'aide des Australiens.
What we are doing is the Sri Lankan government has responded to our offer for the AFP to provide assistance in the investigation, and that's been confirmed overnight. And so our counter-terrorism officers will be involved in that, and we're very happy to provide that assistance.
Scott Morrison, le Premier ministre australien. Selon un sondage News Poll, le parti de Clive Palmer, United Australia Party, pourrait influencer les résultats dans quatre circonscriptions clés du pays, à Hobart, Queensland, Deakin dans le Victoria, Lindsay en Nouvelle-Galles du Sud et Pearce en Australie-Occidentale. Le parti de Clive Palmer a le soutien de jusqu'à 14% des électeurs dans ses sièges et les préférences des votes décideront qui sera élu. Et sur la base des deux partis principaux, la coalition libérale et le Labour sont à égalité à Hobart et à Pearce, alors que le Labour est en tête 51-49 à Lindsay en Nouvelle-Galles du Sud et 51-49 à Deakin dans le Victoria. Le UAP de Clive Palmer a 14% de soutien à Hobart, 5,5% de soutien à Deakin, 7% 7% de soutien à Lindsay et 8,5% de soutien à Pierce. La coalition libérale n'exclut pas un accord politique avec Clive Palmer. L'ancien Premier ministre Barnaby Joyce maintient sa décision d'autoriser un rachat d'eau de 80 millions de dollars à une entreprise ayant déjà été liée à un front-bencher de la coalition. Barnaby Joyce a signé le rachat d'eau du bassin de Murray-Darling en 2017 lorsqu'il était ministre de la gestion d'eau. Le ministre de l'énergie, Angus Taylor, était autrefois un des directeurs de la société impliquée, mais n'avait aucun intérêt financier et a mis fin à son association avec la société avant d'entrer au Parlement. Barnaby Joyce a déclaré à l'ABC qu'aucun député ou sénateur du gouvernement avait tiré profit du rachat.
I'm 100% certain, 100%, rarely in your political life are you like that, I'm 100% certain that I have done absolutely nothing but my job and have nothing absolutely at all to hide.
Voilà l'ancien vice-premier ministre Barnaby Joyce. Durcissement des sanctions américaines contre l'Iran depuis hier. Des sanctions avaient été imposées en novembre dernier. L'Iran déclare que les nouvelles sanctions décidées par les Américains sont, je cite, illégales. Écoutez Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain.
We will no longer grant any exemptions. We're going to zero. Going to zero across the board. We will continue to enforce sanctions and monitor compliance. Any nation or entity interacting with Iran should do its diligence and err on the side of caution. The risks are simply not going to be worth the benefits.
Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Et maintenant, les explications de Eric de Salve pour Radio France Internationale.
L'objectif est simple, dit Mike Pompeo, couper ce régime hors la loi des fonds qu'il utilise depuis 40 ans pour déstabiliser le Moyen-Orient. Selon le secrétaire d'État américain, près de 40% de ses revenus proviennent de ses importations de brut, 50 milliards de dollars par an avant le retour des sanctions américaines. Un argent, dit Pompeo, utilisé pour financer des groupes armés comme le Hamas, le Hezbollah ou encore les Houthis au Yémen. Pour étouffer ses exportations, Washington annonce donc la fin, dès le 2 mai prochain, des dérogations de 6 mois accordées à 8 pays pour continuer d'acheter du pétrole à l'Iran. Parmi ces pays, la Chine, dont un dixième des importations viennent d'Iran, mais aussi l'Inde et des alliés stratégiques des États-Unis comme la Corée du Sud. Alliés ou pas, la fermeté de Washington est la même. Si vous ne respectez pas cela, lance Mike Pompeo, il y aura des sanctions. Une mesure de plus dans la campagne américaine, dite de pression maximale. Il y a 2 semaines, les États-Unis inscrivaient les gardiens de la Révolution sur leur liste noire des organisations terroristes et surtout, après le retrait de l'accord nucléaire iranien en 2015, Washington a rétabli en novembre dernier ses sanctions économiques contre Téhéran, dont l'interdiction d'acheter son pétrole. Ces sanctions, se félicite Mike Pompeo, sont les plus fortes de l'histoire.
Eric de Salve pour RFI. En Algérie, le président par intérim a organisé hier une réunion invitant les partis politiques à discuter les préparations des prochaines élections présidentielles de juillet prochain. La réunion a été boycottée par la plupart des acteurs politiques. Marie-Pierre Olfan, RFI.
Difficile de savoir qui a participé à cette première journée de concertation. Ceux qui y sont allés ont peu médiatisé leur présence. En revanche, ceux qui ont boycotté l'ont fait savoir et de fait, ils sont aussi les plus nombreux. Dans une lettre, l'opposant Ali Benflis a fait savoir que ces concertations étaient pour lui inopportunes et hors sujet. Le MSP, de son côté, voit dans cette réunion une atteinte à la volonté populaire, comme le dit Abderrazak Makri, le leader du parti islamiste.
Les Algériens veulent un changement véritable. Ils ne sont pas d'accord pour que la transition soit dirigée par des personnalités affiliées au pouvoir. Il faut que Salah parte. Il faut donc répondre à l'appel des Algériens et puis on ira dans le dialogue et dans la concertation.
La volonté du peuple, c'est aussi ce que met en avant le RCD de Morsine Belabès qui dit ne pas se reconnaître dans les agendas de la présidence. Même positionnement du côté du Parti des Travailleurs, Judy Djelloul, son secrétaire national à la communication.
Impossible qu'on puisse répondre à une invitation comme celle qui a été déjà faite et de participer à une conférence que le peuple algérien la refuse. Le peuple algérien a refusé ce système, a refusé ce régime, donc il faut qu'il parte.
Abdelkader Ben Salah avait demandé à toutes les parties concernées de participer en toute confiance et de faire preuve d'innovation pour cette première étape. Il n'a manifestement pas été entendu.
Marie-Pierre Olfampo à RFI. Au Soudan, la tension entre les partis de l'opposition et l'armée. L'opposition a renoncé à présenter un gouvernement civil et a suspendu le dialogue avec le Conseil militaire de transition. Les élections présidentielles en Ukraine, et c'est le comédien Volodymyr Zelensky qui l'a emporté au deuxième tour dimanche. Une victoire écrasante avec 73% des voix. Anastasia Becchio pour RFI.
Dans son haut-parleur perché sur sa camionnette, un guide touristique propose des tours à Medjugorje, l'ancienne résidence du président Yanukovych, devenue le symbole de la corruption de l'ancien régime. 5 ans après la révolution, avec la hausse des prix et la guerre à l'Est, la corruption reste l'un des principaux soucis des Ukrainiens. C'est ce qui pousse Tetiana et son fiancé, tous deux étudiants, à chercher à terminer leur cursus à l'étranger.
C'est difficile en Ukraine de briser le plafond de verre de la corruption et de se faire une place à l'université, au travail. C'est pourquoi nous avons décidé de partir.
Après la révolution de Maïdan, plusieurs institutions de lutte contre la corruption ont été créées, mais leur champ d'action est limité par le manque de volonté politique, explique Daria Kalinyuk, directrice de l'ONG Centre de lutte contre la corruption.
Les organes de lutte contre la corruption sont constamment sous pression et subissent des attaques. Le système judiciaire défend des intérêts politiques. Nous voyons bien dans cette campagne électorale que les gens sont lassés de cette élite politique. Ils estiment qu'elle doit être sanctionnée politiquement pour ne pas avoir tenu ses promesses.
Petro Poroshenko a demandé pardon de n'avoir pas mené à bien la lutte contre la corruption. Une déclaration qui, même si elle a l'air sincère, selon Daria Kalinyuk, vient sans doute un peu tard.
Anastasia Becchio pour RFI. Au Venezuela, 3 mois depuis que Juan Guaido a prêté serment comme président par intérim. Et il y a toujours 2 présidents dans le pays. Et c'est toujours Nicolas Maduro qui détient le pouvoir. Benjamin Delisle est le correspondant de RFI à Caracas. Reportage.
Depuis début mars et les premières grandes coupures d'électricité, chaque rassemblement de l'opposition attire de moins en moins de monde. Mais selon Souleyma, casquette tricolore vissée sur le crâne, cela ne signifie pas que ses compatriotes sont résignés.
Ce gouvernement affame les Vénézuéliens. Si les gens ne vont pas travailler, ils ne mangent plus. Donc on ne peut pas assister à toutes les manifestations, à toutes les convocations, car on doit survivre. Mais dès qu'on peut le faire, on le fait.
Hector, un farouche opposant, souligne que même si Nicolas Maduro est toujours au pouvoir, l'opposition s'est renforcée en 3 mois.
En particulier avec la reconnaissance internationale ou la série de pression des États-Unis contre le Venezuela qui commence à faire effet. Donc on garde espoir car on veut un changement.
Même si la situation semble s'enliser, José estime que la contestation doit continuer dans la rue pacifiquement pour éviter une transition rapide mais violente.
Il ne faut surtout pas prendre les armes comme ils l'ont fait contre nous. Ce que l'on veut, c'est pouvoir choisir légalement nos gouvernants.
Tous espèrent encore secrètement que les sanctions américaines vont finir par convaincre les militaires de les rejoindre. Et en attendant, ils vont continuer de manifester encore et toujours.
Benjamin Delisle pour RFI. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth maximal de 26 degrés. Adélaïde 22, Melbourne 19, Hobart 20 degrés, Canberra 23, Sydney 25, Brisbane 27, Cairns 30, Darwin 35 degrés et à Alice Springs maximal de 27 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi. Le mari, le père de 2 Australiens tués dans les attentats au Sri Lanka, parle de son chagrin. La police fédérale australienne aide les autorités sri-lankaises dans leurs enquêtes des attentats de dimanche de Pâques. La campagne des élections fédérales en Australie et le United Australia Party de Clive Palmer pourraient décider qui sera élu dans 4 circonscriptions clés du pays. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.